L'affaire du jour nous emmène en Irak. L'Irak est au cœur de l'ancienne Mésopotamie, c'est là où les premières civilisations de l'Orient sont nées. Bon, on va pas s'éterniser, on va juste donner 2-3 éléments parce que bah, déjà c'est l'occasion, et puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais plus sérieusement, l'Irak a une histoire très riche, histoire dont on ne parle pas trop à l'école, chez nous malheureusement, et pour notre affaire, il est important de situer 2-3 éléments importants. L'Irak, c'est un territoire qui a toujours été convoité et disputé. Le pays a été envahi par des peuples venus de Turquie, de Perse, de Grèce, par l'Empire romain, puis à nouveau par les Turcs, les Kurdes et même par les Mongols. Au début du XXe siècle, les Britanniques, qui veulent sécuriser leur accès à la route des Indes et au pétrole, décident de prendre le contrôle du pays. Ah, l'Europe et ses envies de dominer, écraser, pulvériser, voler tout le monde. En 1914, l'Irak est envahi. L'idée, c'est de dupliquer le modèle européen, parce que c'est bien connu que l'Européen est mieux que les autres, phoque leur culture, leur tradition, et presque même leur plat délicieux. Que ce soit à domicile ou en tant qu'envahisseur, il faut ressembler à l'Européen. Donc on copie-colle le modèle euro, on met en place une démocratie et on gère les territoires adjacents. Selon l'accord établi, les Britanniques doivent se retirer en 1932 et l'Irak doit devenir un pays indépendant. Mais évidemment ça va pas du tout se passer comme ça. Les Britanniques ne se retirent pas complètement. En 2003 on a un nouveau grand débarquement, alors celui-là on en a plus entendu parler. Bon bah déjà parce que la plupart d'entre nous on était déjà nés. Cette fois, c'est le gouvernement américain qui déclare la guerre à l'Irak. L'intention explicite de George Bush, président des USA à l'époque, c'est de mettre fin à la domination de Saddam Hussein et à la terrorisation. Alors je pense que tu as compris le mot que je veux utiliser. Par crainte d'être démonétisé, bah, j'utilise ma version non censurable. La motivation plus implicite de Bush, c'est de punir entre guillemets les auteurs supposés du 11 septembre et d'exporter la démocratie au Moyen-Orient. Hein. Il faut bien éduquer ces sauvages. Mais l'attaque du 11 septembre, aussi épouvantable soit-elle, bah, c'est l'idée des talibans en Afghanistan et du groupe avec pour chef Oussama Ben Laden, Ben pour les intimes. Donc punir les talibans, bah, ça justifie pas de mettre les pieds en Irak. On va donc inventer en 2002 une histoire d'armes de destruction massive et on va lancer une grande opération de désinformation, hashtag propagande. Enfin, quand je dis on, évidemment, Washington, gouvernement de George W. Bush, ils vont aller jusqu'à corrompre la CIA et leur demander de publier des résultats de recherche justifiant l'existence de ces armes, enfin, pour prouver l'existence de ces armes. Même si certains agents avoueront par la suite qu'ils savaient que c'était faux. Interrogé plus tard, Bush jure qu'il n'a pas menti, il était persuadé que les armes seraient là, on allait les trouver, je pensais qu'on allait les trouver. Les armes de destruction massive n'ont jamais été trouvées en Irak durant l'occupation américaine. Enfin, si, mais un petit flacon ridicule qui aurait même pas pu donner la chiasse à un lépreux. Même s'il s'agissait d'envahir un pays tenu par un dictateur sanguinaire, les États-Unis commettent des violations de droits et de crimes atroces pendant cette guerre qui va durer 8 ans. On comprend tout de suite mieux le soutien aujourd'hui indéfectible aux colons en Palestine. Hashtag Dallah. Le site Iraq Body Count estime qu'environ 200 000 civils irakiens sont tués pendant des fusillades et des bombardements entre l'invasion de 2003 et le retrait de 2011, orchestré par le président Barack Obama. En 2006, c'est la guerre civile qui éclate en Irak et les milices se battent contre l'occupation américaine. De la minorité sunnite déchue qui dirige le pays sous Saddam Hussein, naît le mouvement État islamique, qui soumet la population en Irak et en Syrie entre 2013 et 2017. Il est défait en 2017 par l'armée irakienne et les milices chiites, soutenues par les Américains qui sont encore présents sur place. Les citoyens irakiens, dommages collatéraux de ces années d'affrontements, vivent en 2003 dans un pays encore instable, avec un État corrompu, une pauvreté très forte et un niveau de violence et d'insécurité encore élevé. Et c'est dans ce contexte que vit Tara Fares. Qui est Tara Fares? Tara naît le 10 janvier 1996 dans une famille modeste. Son père est irakien et sa mère libanaise. Elle grandit avec ses trois sœurs et ses trois frères dans le quartier de Zayouna à l'est de Bagdad. Née dans une famille chrétienne, elle se convertit à la religion musulmane à l'âge de 6 ans. Elle grandit en temps de guerre dans un pays encore très traditionnaliste. Elle raconte dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube comment sa mère reçoit des demandes en mariage de la part des mères de ses camarades de classe sur le trajet de l'école. « Shaba Bentek, elle est belle ta fille, où elle a grandi, donne-la-moi pour mon fils ». Pour nous les Africains, c'est quelque chose qu'on connaît, ou nous les Européens d'origine africaine, c'est quelque chose qu'on connaît, les demandes en mariage comme ça, c'est les embuscades. D'ailleurs, laisse un commentaire pour raconter si toi aussi tu as été déjà victime une embuscade. Comme beaucoup de petites filles, Tara grandit avec une vision idéale de l'amour. Elle attend son prince charmant. « Je pensais que j'épouserais un homme que j'aimerais et qui réaliserait tous mes rêves », dit-elle. Parce que c'est bien connu que seul un homme peut réaliser tes rêves et te sortir de ta miséria. Malheureusement pour elle, ce n'est pas la première expérience qu'elle aura de l'amour. Elle a 16 ans quand son père la marie à un homme plus âgé qu'elle. Elle déchante très vite. Son mari est un homme violent. Une amie de Tara raconte plus tard, il la frappe, il la traite presque comme un chien. Elle qui aime l'école, qui aime apprendre et qui aime avoir une vie sociale, elle est déscolarisée et elle reste à la maison à jouer à la femme au foyer. Alors non pas qu'être femme au foyer c'est pas bien, c'est juste pas du tout ce qu'elle voulait pour elle. Elle dit plus tard, tous les hommes irakiens veulent une femme pour les servir, laver leurs vêtements, se consacrer à eux. Il te demande de ne pas avoir de sentiments, ce qui revient à te demander de ne pas être humaine. Tara va tomber enceinte de son mari et les violences, malheureusement, continuent. Sa famille constate les marques sur son visage et décide de la faire revenir chez eux pour la protéger, elle et aussi son bébé, des abus de son mari. Après avoir donné naissance à son fils Amir, Tara quitte son mari violent. Et en Irak, c'est pas quelque chose de facile à faire. Quand Amir a 6 mois, l'ex-mari débarque chez les parents de Tara, où elle s'est réfugiée après la séparation. Il est accompagné d'un groupe armé. Alors en effet, monsieur a des relations avec ce genre de personnes. Il menace la famille et il leur dit littéralement qu'il va les tuer s'ils ne lui rendent pas son fils. Effrayée, la famille Fares va céder. L'enfant est donc rendu à son père. Tara raconte plus tard pendant une interview, « Ils m'ont pris mon fils quand j'étais très jeune et je n'ai rien pu faire. » Elle ne reverra jamais son fils Amir. À peine âgée de 17 ans, la courageuse Tara reprend sa vie en main. Elle continue d'avancer. C'est une jeune femme d'une beauté extraordinaire et elle sait qu'elle peut en faire un atout. « Quand les hommes me donnent leur numéro, dit-elle, quand ils me parlent, quand ils me draguent, c'est pas très important pour eux que je sois voilée ou pas. » Tout ce qui leur importe, c'est de savoir si la couleur de ma peau est assez blanche. J'ai réalisé que les gens en Irak étaient juste intéressés par le corps, l'aspect physique. Tara devient modèle, sa famille est menacée, et donc elle doit quitter le pays. Ils partent tous pour la Grèce, et ils s'arrêtent en Turquie. Ils vont y habiter quelque temps, et avec ses premiers cachets de modèle, Tara va acheter un appartement en Jordanie. Alors l'idée, c'est de pouvoir mettre sa famille à l'abri en cas de conflit. Mais son pays de cœur, à Tara, c'est l'Irak, et elle revient s'installer à Bagdad. En 2014, elle a 18 ans, elle est élue dauphine du concours Miss Bagdad. Alors, à cette époque-là, c'est le concours non officiel parce qu'entre 1978 et 2015, le concours est annulé avant d'être réinstauré. Donc c'est pour ça que le nom de Tara n'apparaît pas dans les registres officiels puisqu'ils ne reprennent qu'en 2015. Un an après, alors que Tara s'inscrit au concours de Miss Irak, son ex-mari poste publiquement une photo d'elle pendant leur mariage. C'est probablement pour lui faire honte, pour reprendre le contrôle sur elle et pour la réduire à son statut d'épouse qui fait le ménage et la bouffe. Mais ça prend pas sur elle, ça l'affecte pas du tout. Brasse de l'air, tu seras plus utile. Malheureusement, Tara ne remporte pas le prix, elle ne devient pas Miss Irak. Et en parallèle, la vie dans la capitale irakienne devient trop dangereuse. Attentats, enlèvements, assassinats, ça devient monnaie courante. Elle part donc s'installer à Erbil, tout au nord du pays, c'est assez proche de la Turquie. Et là-bas, elle va fréquenter bars, restaurants, elle vit dans un appartement en haut d'une tour ultra-moderne d'une vingtaine d'étages, elle profite d'une vie « moderne » entre guillemets, comme elle le faisait en Turquie, elle est passionnée par la mode et elle envisage même de créer sa propre marque de vêtements et d'accessoires. Et alors que sa carrière de modèle l'a fait un peu connaître du grand public, en 2016, elle crée un compte Instagram. Elle y publie les photos de ses shootings, des vidéos de sa vie quotidienne, elle y parle de mariage forcé, de violences domestiques et d'asservissement des femmes. Et rapidement, elle se construit une belle communauté. C'est entre 2,6 et 2,8 millions d'abonnés qui suivent ses aventures. Elle propose des tutos make-up, elle s'habille comme elle a envie, elle se teint les cheveux, elle montre ses tatouages, ses voyages, ses activités. Elle n'est pas la seule irakienne à proposer ce type de contenu, mais elle fait clairement partie d'une minorité. Elle reçoit beaucoup de soutien de sa communauté, à tel point que des marques commencent à faire appel à elle pour des partenariats. Elle devient officiellement influenceuse. Évidemment, on connaît les réseaux sociaux, donc Tara reçoit également des commentaires très négatifs, de la haine et même des menaces. Et elle décide de ne pas y prêter attention. La description de son compte, c'est « La vie est courte et ici, je fais ce que je veux ». Sa liberté d'esprit est totale, explique son ami Rami, propriétaire d'un restaurant dans la ville d'Erbil où Tara aime passer du temps. Tara, elle dit dans une de ses vidéos « Je porte ce que je veux, je fais ce que je veux, et ce dont je suis sûre à 100%, c'est que je ne fais de mal à personne ». Dans ses vidéos, elle mange des sushis, elle va au cinéma, elle fait des reviews sur son shopping, elle chante, elle bouquine, elle va dans des cafés, elle fume des cigarettes, enfin tout ce qu'il y a de plus normal entre guillemets pour une influenceuse, enfin pour une personne en réalité, pour un être humain. Et le fait de partager ça sur ses réseaux sociaux, c'est du contenu qu'on retrouve partout dans le monde entier. Tara, elle a rien inventé et comme elle le dit si bien, elle ne fait de mal à personne. Il y a aussi cette histoire qu'on retrouve pas dans toutes les sources mais dans certaines, donc à prendre avec des pincettes, il aurait existé une vidéo de Tara qui raconte cet événement sur sa chaîne YouTube. Son amoureux serait mort pendant l'attentat de la boîte de nuit Rena à Istanbul en 2017. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2017, un homme armé d'un fusil d'assaut fait irruption dans cette boîte branchée des bords du Bosphore vers 1h15 du matin. Il ouvre feu et fait 39 victimes et 79 blessés. Et dès le 2 janvier 2017, la tuerie est revendiquée par l'État islamique. On revient à Tara Fares. Donc, la jeune femme a plusieurs facettes. C'est une personne publique, elle est admirée par des millions de personnes, mais c'est aussi une survivante d'abus, une femme divorcée, une jeune mère à qui on a arraché son enfant, une femme courageuse qui milite pour la liberté des femmes. Et elle met tout ça en avant sur les réseaux sociaux. Elle s'oppose aux diktats, elle tient tête à son ex-mari, elle dévoile son mode de vie, elle n'a pas peur de se montrer dénudée, comme sur une image d'elle où on la voit de dos, torse nu, photo qu'elle poste en plein pendant le ramadan. De quoi faire réagir les conservateurs. Et elle les interpelle même directement. Elle dit dans un post qu'elle a bien plus d'honneur que tous les membres du Parlement et tous les politiciens irakiens. Laissez les gens vivre leur vie, construire leur futur et arrêtez de scruter la vie des autres pour leur dicter leur conduite. Stop, assez, on n'en peut plus. C'est une citation de Tara qui nous rappelle notre cher Kandil au Pakistan. Kandil qui faisait des chichas et fumait des clopes en plein ramadan avec un imam, on se rappelle. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder, je te mets un lien quelque part à l'écran et en barre de description. À Erbil, où Tara réside, elle se sent plus libre qu'à Bagdad. Elle retourne à la capitale seulement pour travailler. Elle dit « Bagdad est une ville fatigante, ennuyante et nocive, mais je l'adore ». À l'été 2018, elle poste des vidéos d'elle et de ses amis en boîte de nuit. Elle rigole, elle chante, elle font des blagues, enfin comme toute jeune fille de 22 ans de n'importe où ailleurs ou presque. Et c'est le défilé de mode à chaque sortie, make-up de ouf, belle tenue, enfin la totale. Elle s'amuse, elle danse, enfin l'insouciance d'une jeunesse qui, bien qu'ayant grandi en temps de guerre, profite de sa liberté, profite de la vie. Le 27 septembre 2018, l'été prend fin, le travail reprend. Tara doit se rendre à Bagdad pour un shooting avec un ami photographe. Sur son trajet de 5 heures de Erbil à Bagdad, elle fait des vidéos dans sa belle Porsche blanche qui lui a été offerte par un admirateur. Elle s'amuse de voir son petit ami essayer sa voiture sur les routes encore vides qui mènent à Bagdad. Tara a plein de projets, la veille au téléphone avec deux de ses amis, elle organise un voyage entre copines en Malaisie pour les prochaines vacances. Elle leur parle aussi de la pub pour laquelle elle vient de poser. Et pendant cette conversation, inquiétée par les menaces que Tara reçoit constamment sur Instagram, Facebook ou encore Snapchat, ses amis lui demandent si elle est obligée d'aller à Bagdad. Elles lui font part de leur inquiétude et Tara répond qu'elle s'en fout de ses commentaires, elle s'en fout de toutes ces menaces. Et elle leur dit « Je n'ai pas d'ennemis parce que je ne fais de mal à personne ». Le 27 septembre 2018, Tara arrive donc à Bagdad en compagnie de son petit ami. Sur les images de vidéosurveillance du quartier UP de Camp Sarraj, on la voit arriver dans une ruelle étroite au volant de sa Porsche. Elle roule très lentement, un scooter sur lequel se trouvent deux hommes la suit. L'un d'eux est habillé tout en blanc, il descend du scooter, il arrive au niveau de sa fenêtre, il s'arrête quelques secondes et lève le bras. Ensuite, il s'enfuit en courant, il saute à l'arrière du scooter et les deux hommes prennent la fuite. La Porsche blanche roule lentement encore quelques secondes, puis elle s'arrête. Tara, à l'intérieur de sa voiture, assise sur le siège conducteur, vient d'être assassinée. Comme ça, en quelques secondes. Elle reçoit 3 balles, une dans la poitrine, une dans le cou et une dans la tête. Son petit ami, présent dans la voiture au moment du drame, la conduit à l'hôpital de Bagdad, mais son décès est prononcé le jour même. Le ministère de l'Intérieur irakien confirme cette information et annonce l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs de cet assassinat. Le lendemain du meurtre, c'est le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, qui poste un tweet dans lequel il demande aux services de sécurité de revenir vers lui dans les 48 heures avec des informations sur l'assassinat. Le vol à l'arraché est évoqué comme une raison possible, mais les internautes, eux, soupçonnent rapidement que c'est le mode de vie de la jeune femme qui est à l'origine de son assassinat. Plusieurs personnes sont interrogées, des amis de Tara notamment, mais ils seront tous innocentés. Le ministre de l'Intérieur irakien, Qassem El-Araji, explique que Tara a été assassinée par un groupe d'extrémistes connus du gouvernement. Et il ajoute que les autorités travaillent pour pouvoir effectuer des arrestations, exposer les coupables et les punir pour leurs crimes. Des soupçons vont se tourner du côté des milices chiites de Hasht el-Shaabi, Unité de Mobilisation Populaire ou Force de Mobilisation Populaire. C'est une coalition qui est formée en 2014 pendant la Seconde Guerre civile irakienne. Au lendemain du meurtre de Tara, le ministre de l'Intérieur rassure la population et annonce que l'affaire va pouvoir rapidement être close. 5 ans après, aucun suspect n'est appréhendé, personne n'est puni pour le meurtre de la jeune influenceuse. Avant sa mort, Tara Fares sait qu'elle est menacée, elle sait que dans cette société patriarcale et conservatrice, les femmes émancipées, indépendantes et libres sont des cibles, surtout si elles ont une voix qui porte autant, une voix qui parvient aux oreilles de millions de personnes. Hussein Alaoui, professeur en sécurité nationale à l'université de Bagdad, explique que le cas du meurtre de Tara Fares est compliqué. Selon lui, l'assassinat a lieu à une période de transition du gouvernement. Un mois après le drame, le Parlement irakien est remanié, mais les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice sont restés vacants. Alaoui dit également que depuis le meurtre de Tara, un seul porte-parole du gouvernement est autorisé à parler pour les autorités, mais cette personne refuse de parler du cas de Tara Fares. Tara est enterrée au cimetière chiite de Najaf. La dernière entrée de son journal intime, c'est « Dieu est bon et quoi qu'il ait écrit, pour moi, ce sera bien ». À ce jour, on ne sait toujours pas qui a tué Tara Fares. Après la mort de la jeune femme, la question de sa liberté reste un sujet de discussion et de controverse. Un de mes exemples préférés, une journaliste de la télévision nationale irakienne qui la traite de PUTE dans un tweet. D'un côté, on a des internautes qui disent qu'avec une vie aussi vide et futile, elle avait bien mérité son sort. Et de l'autre, on a des personnes qui ont une âme et qui s'insurgent de sa mort. Et on comprend pourquoi, puisque dans la majorité des cas, les gens comprennent que le comportement de la jeune femme n'est pas choquant et pas sujet à controverse. Dans beaucoup de pays du monde, Tara est une jeune adulte comme beaucoup d'autres. Elle devient une influenceuse comme beaucoup d'autres, une jeune modèle qui vit sa vie et poste sur les réseaux sociaux. Son contenu reste souvent léger, un mélange d'activités du quotidien, de ses repas, sessions à la salle de sport, rendez-vous avec des amis, voyages, fringues, make-up, etc. Et parmi ses publications, elle exprime ses opinions. Elle se considère même pas comme une activiste, juste comme une jeune femme libre qui dit ce qu'elle a sur le cœur et qui partage ce qu'elle a vécu. À l'été 2015, l'Irak est sous tension, les gens sont dans la rue et manifestent contre leurs conditions de vie, le manque d'eau potable, manque de travail, manque de services. Ils demandent des réformes politiques. Et pendant ces manifestations, les autorités blessent et tuent parfois des manifestants. Tara s'insurge dans une vidéo et elle dit « La police et l'armée ont tiré sur des manifestants. Pourquoi ? C'est la première fois qu'on voit une telle scène, sunnite, chiite et kurde, main dans la main, chantant l'hymne national. » Fin de citation. Sur les 2 dernières années qui précèdent la mort de Tara, elle semble vraiment se concentrer sur le grand sujet de la liberté individuelle. Elle transmet des messages tels que « Oh les gens !» Vivez votre vie au maximum, faites ce que vous aimez, faites vos choix selon vous, qu'ils plaisent aux autres ou non. Dans la plupart de ses photos, elle est habillée en jogging, en jean large, en t-shirt large, enfin, rien que toi et moi on ne voit pas tous les jours quand on met le pied dehors. Dans quelques-unes de ses photos, elle est en lingerie, elle pose sur une peau de bête, elle pose en soutien-gorge super bling-bling avec des strass et tout. Ou encore une photo d'elle où elle est en blazer et elle a rien en dessous. Alors ça peut choquer certaines populations, mais on ne tue pas quelqu'un pour des choix vestimentaires. Ici, en France, on voit combien de gens de confession musulmane, hommes ou femmes, qui fument des cigarettes, qui boivent de l'alcool, qui ont des tatouages, enfin voilà. Tu ne juges pas les gens et tu ne les tues pas parce qu'ils ont des conditions ou des pratiques autres que les tiennes. Pendant une manifestation dans la ville de Bassora, 2 jours avant l'assassinat de Tara, les forces de sécurité sont envoyées pour contenir l'émeute. Elles arrêtent des centaines de personnes. Une 12aine de manifestants sera tuée. Parmi eux, Souad El-Ali, militante des droits de l'homme, qui est retrouvée assassinée par balle alors qu'elle se trouvait dans sa voiture ou près de sa voiture selon les sources. La police accuse son ex-mari qui aurait pris la fuite. Mais au même moment, plusieurs avocats, médecins et journalistes liés à cette manifestation témoignent avoir été la cible de menaces. La mission de l'ONU en Irak, l'UNAMI, réagit en rappelant qu'il faut condamner tout acte de violence, en particulier contre les femmes, dont le meurtre, les menaces et l'intimidation, comme des actes totalement inacceptables. En août, donc 1 mois seulement avant le meurtre de Tara, 2 autres femmes influentes, la chirurgienne plastique Rafif Al-Yassiri, surnommée Barbie, et Racha Al-Hassan, directrice de l'Institut de beauté Viola Beauty Center, sont retrouvées mortes à leur domicile dans des circonstances douteuses. Et les explications qu'on avance des effets secondaires de certains médicaments et une grippe bien hara, bien piquante. Bien sûr, le public n'est pas convaincu. La police tente de rassurer la population en dissociant les affaires, mais le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, évoque des éléments qui laissent penser qu'il y a un lien entre ces assassinats. Voilà, c'est mort. Il dit « Ces assassinats donnent l'impression d'un plan organisé de groupes désireux de perturber la sécurité au prétexte de combattre les manifestations de déviance. Les présenter comme des cas isolés est une erreur, selon Nibras El-Mamouri du Forum des journalistes irakiens. Les femmes influentes dans le pays sont de plus en plus ciblées pour créer la peur et le chaos, dit-elle. Et ces mêmes groupes sont visés pour l'assassinat en 2017 de l'acteur et modèle Karar Nouchi. Pour conclure, il faut reconnaître que même si on n'aime pas la politique, hein, personnellement je déteste la politique, le choix de Tara Fares de dire non aux abus et de vivre comme elle le souhaite est un acte politique. Résultat, Tara se fait exécuter. Les souffrances des femmes sous l'État islamique sont bien documentées, mais les milices religieuses conservatrices qui l'ont combattue ont gagné en pouvoir et en influence. La guerre et la crise économique ont amplifié la violence et les Irakiennes continuent d'en faire les frais. Des villes comme Erbil et Bagdad sont relativement libérales et les femmes peuvent, pour la plupart, voyager, étudier, travailler et socialiser dans les lieux publics, mais les crimes d'honneur, concept introduit dans le code pénal en 1990, et les menaces contre la liberté individuelle et l'immoralité restent courants. Ceux qui remettent en question les rôles traditionnels de genre risquent la violence, l'intimidation, voire la mort. D'après Anna Edouard, directrice d'AMAL, une ONG qui milite pour les droits des femmes, les groupes armés, les tribus, les gangs criminels, tout cela ont des postes jusqu'au sein des autorités et des forces de sécurité. Ces récentes disparitions sont un message de menace envoyé aux militantes en particulier, mais aussi à toute la société. Fin de citation. Dans un pays ravagé par la guerre, les Irakiennes sont les premières cibles de la violence. Elles bénéficient pourtant de libertés personnelles et civiques, acquises durement après des décennies de combats sociopolitiques. Avant l'accès au pouvoir de Saddam Hussein en 1979, la loi relative au statut des femmes leur garantit le droit à l'éducation, au divorce et à la garde de leurs enfants. L'égalité homme-femme est même inscrite dans la Constitution de 1970. Contrairement aux attentes, la libération de l'Irak au printemps 2003 ne permet pas d'améliorer concrètement la condition des femmes. L'occupation américaine s'est soldée par une remise en cause sans précédent de leurs conditions de vie et de leurs droits. Et tout le monde s'en fout. Même dans leur maison, les Irakiennes ne sont pas épargnées. D'après l'ONU, une femme irakienne sur 5 subit des violences domestiques et elle n'a généralement pas les moyens de fuir. Ces violences domestiques sont souvent ignorées par la police et le gouvernement ne fait pas grand-chose pour les empêcher. Et face au chaos et à la restriction de leur liberté, de nombreuses femmes choisissent l'exil si elles le peuvent. Et d'autres comme Tara Fares restent par amour pour leur pays, mais le paix de leur vie. En juillet dernier, Tara écrit « Je n'ai pas peur de ceux qui rejettent l'existence de Dieu. Ce qui me fait vraiment peur, ce sont ceux qui tuent et massacrent au nom de leur foi pour prouver l'existence de Dieu. » Et on termine avec une question. Alors évidemment, j'ai mon avis sur le sujet, enfin sur cette affaire, et si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu dois sûrement connaître déjà mon avis. Et je le résumerai avec cette phrase. « Laissez les gens vivre. » On parle de l'Irak et du droit des femmes, nous Français, comme si on était genre 1000 ans en avance sur eux, alors qu'aujourd'hui en France, en tant que femme, tu n'as même pas le droit de t'habiller comme tu veux. Une robe H&M, c'est interdit. Manifester pour demander un cessez-le-feu, c'est interdit. Manifester contre un génocide qui a cours en ce moment, c'est interdit. Par contre, une grosse manif de gros fachos cagoulés, visage masqué, ça, c'est autorisé. Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Je te cite le texte de loi en France, mais je pense que ce texte s'applique selon qui tu es et selon ce pourquoi tu milites. Preuve en image. Là-bas, en Irak, faut trop se couvrir. Ici, c'est interdit. Enfin, bon, laisse ton avis en commentaire. Je le rappelle, je ne censure pas. Enfin, à part des mots voilà, qui sont déjà automatiquement censurés par YouTube, je censure aussi s'il y a des menaces ou des insultes gratuites, ou même pas gratuites, mais je ne censure pas les opinions. Pour moi, c'est un droit fondamental, donc moi, je suis qui pour te dire de fermer ta gueule. C'est vrai que je suis sur ma chaîne et que techniquement, je pourrais le faire, mais je ne veux pas le faire. Je te laisse donc t'exprimer. La seule chose que je demande, c'est de le faire dans le respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.